Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Lana et je suis accompagnée de Drew. Bonjour Drew.
Bonjour Lana.
Et nous accueillons Christian Molinari. Bonjour Christian.
Bonjour Lana, bonjour Drew.
Christian est un homme multicasquette qui va se dévoiler à nos micros et on va découvrir son actualité. Mais avant, on va faire un petit fil rouge des questions que nous posons à tous nos invités.
Alors, tu vas te mettre un petit peu dans la peau d'un des jurys des L'As d'Or et tu vas nous dire pour toi, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes?
Le jeu pour rire avec les potes. Alors, c'est une sélection as d'or, hein?
Non,
pas c'est
toi.
C'est ton as d'or,
okay,
à toi.
Okay, d'accord, okay. Mon as d'or à moi.
C'est ta sélection unique.
Ok. Alors, moi, effectivement, j'aime beaucoup sortir le trio avec mes amis qui ne sont pas forcément des joueurs. Et c'est vrai que c'est un jeu qui se sort facilement, qui se joue facilement et que j'apprécie ressortir régulièrement avec les copains.
Et quel est ton as d'or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
Alors moi, j'aime bien ressortir Harmonies régulièrement en jouant, souvent à deux. Et c'est vrai que c'est un petit jeu que j'aime bien, un petit jeu, plus gros jeu. Mais je suis pas un joueur de gros jeux de stratégie, donc moi c'est un jeu qui me fait un petit peu fumer le cerveau quand même et que j'apprécie particulièrement, qui est nommé à l'as d'or. On verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien.
Ok.
Quel est ton as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer? Ça peut être un jeu en campagne que tu as terminé, ça peut être un jeu que tu n'as pas aimé. Ouais.
Alors, je suis pas super fan des jeux type Blanc Manger, Limite, Jus du cul. C'est pas des jeux à ma sauce, donc c'est vrai que c'est pas des jeux que je ressors. J'ai pu y jouer, mais c'est pas moi qui vais ressortir ce type de jeu. Voilà, c'est pas ma cam.
Ok. Quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie, si ça t'arrive?
Ouais, j'aurais tendance encore à revenir un petit peu sur Trio, parce que c'est vrai que moi c'est vraiment un jeu que j'affectionne pour les échanges que ça crée avec les gens autour de la table finalement, parce que il y a vraiment de l'interaction entre les joueurs et c'est quand même assez drôle et on se chambre assez facilement sur les oublis de la carte qui étaient visibles pourtant 2 secondes avant et voilà, donc je dirais que oui, ça me fait assez rire et vu que je suis pas un gros joueur de jeux de stratégie, en général je me casse pas trop la tête non plus là-dessus, donc c'est vrai que c'est plutôt les jeux d'ambiance qui restent.
Et enfin, pour finir, quel est l'as d'or du jeu le plus moche, mais que tu peux apprécier, mais vraiment, visuellement?
Je dirais Skyjo aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il est efficace, hein, finalement, donc on voit bien que... vu le succès du jeu et le graphisme du jeu, voilà, c'est vrai qu'il n'est pas particulièrement beau, mais il trouve son public et c'est vrai qu'il est agréable à jouer. Donc je dirais que Skyjo remplit bien les cases.
Ok, merci beaucoup pour ce fil rouge. Et maintenant, peux-tu nous parler un petit peu de toi? D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé dans le monde du jeu?
Alors, je suis arrivé dans le monde du jeu il y a un peu plus de 20 ans maintenant quand même. Je dirais grâce à mon associé Pierre Sabin. On s'est rencontrés sur nos dernières années de notre dernière année d'études. Moi, j'étais dans l'expertise comptable, donc absolument rien à voir avec le jeu de société, mais je pense comme beaucoup de personnes dans le jeu de société ne viennent pas de là. Il avait créé un jeu de société sur les gestes qui sauvent qui s'appelle Secouris. On est en 2002. Lui, il avait créé le jeu quand il avait une quinzaine d'années encore, donc c'était un jeu qui était resté dans les cartons. À ce moment-là, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation avaient intégré la formation aux gestes qui sauvent dans les écoles. Donc il est venu me voir parce qu'on avait commencé à bosser sur Paris tous les deux. On était tous les deux à Toulouse, on faisait nos études à Toulouse et on s'est retrouvés tous les deux à Paris. Il m'a parlé du projet, on s'est dit bah ouais pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité de lancer un jeu. Moi j'étais joueur à mon niveau, c'est-à-dire que moi j'ai une famille, j'ai passé toute mon enfance en Allemagne, pendant mes vacances scolaires, je suis né à Strasbourg, donc je suis strasbourgeois, donc j'allais toutes les vacances scolaires en Allemagne. Et donc, je jouais aux jeux de société toutes les vacances scolaires. Donc, Colon de Catane, par exemple, j'y ai joué avant même qu'il soit connu en France. Et c'est vrai que c'était un classique de mon enfance. Donc, j'étais joueur, de ce qui pouvait se faire en Allemagne à cette époque-là. Et donc, je pense que j'avais cette affinité par rapport aux jeux de société. Ce qui fait qu'on a créé Abeille à ce moment-là. On était 4 associés pour se lancer dans le projet. Et on a commencé à faire des salons. Il n'y avait pas trop de festivals à l'époque. Hein. C'était vraiment des salons, des foires qui existaient. Et pour faire connaître notre jeu de société auprès des écoles, auprès du grand public. Et donc, on a eu notre petit succès. On a eu, on a remporté, on avait des... on avait eu le concours Lépine, médaille d'or du concours Lépine. On l'a eu 2 années d'affilée. On a eu un prix spécial du ministère de l'Intérieur lors du concours Lépine également. Donc le jeu a eu son succès. Il existe toujours. Il a changé de nom maintenant. Il s'appelle À la rescousse. Il a été repackagé, rebrandé en milieu scolaire, mais il fonctionne toujours. C'est toujours un petit jeu classique. Rien d'extraordinaire dans la mécanique. Aujourd'hui, ça reste un jeu de questions-réponses sur lequel on se balade, on a des missions, etc. Ensuite, je dirais 2004, on a les banques et les assureurs qui ont commencé à créer leurs produits des garanties des accidents de la vie. Et on s'est dit, on a un jeu sur les gestes qui sauvent, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Donc on a pris notre téléphone, on a commencé à appeler les banques et les assureurs pour leur demander si un jeu pouvait les intéresser sans trop savoir où on allait. Et on a une banque qui nous a dit moi ça m'intéresse, j'ai besoin de former mes collaborateurs sur ce que c'est un accident de la vie, parce qu'on vend des produits mais ils savent pas forcément ce que c'est. Donc ils ont utilisé notre jeu, ils en ont acheté 5000 d'un coup, qu'ils ont diffusé auprès de tous leurs salariés. Quand on avait fait une première prod de 5000 jeux où on ramait pour les vendre, là en une signature on avait vendu 5000 jeux. Donc on s'est dit il y a quelque chose sur ce marché, on le connaît pas, approfondissons. Et à ce moment-là, ils nous ont dit, mais on aimerait avoir un petit goodies pour offrir aux gens qui souscrivent un contrat d'assurance. Il vous faut quoi ? On a juste le jeu de cartes de questions-réponses qui est dans le jeu. Ça ira bien pour cette année. On vous en prend 50 000. D'accord, ok. Donc, on fait ça. Donc, très bien. Donc, ça lance une dynamique dans une boîte, finalement. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Mais ça y est, on a fait une banque, on n'en aura pas d'autres. Et on a une autre banque qui nous a contactés, qui nous dit, on pourrait se rencontrer. On a vu que vous faisiez tel produit. On aimerait se rencontrer. Donc, une rencontre, on leur demande, votre concurrent le fait déjà. Pourquoi vous le voulez ? Vous-même, vous avez combien de banques ? J'en ai une. Chaque banque a ses clients. Il est rare qu'une personne ait plusieurs banques. Donc, on s'est dit, le marché est énorme. Donc, on a commencé à démarcher toutes les banques et tous les assureurs avec nos jeux. La première banque nous a demandé l'année suivante d'avoir un autre produit. Donc, on a fait un petit jeu de cette famille avec Wiz sur les gestes qui sauvent également. Ils nous en ont pris 150 000. Donc, tout de suite, ça fait des volumes colossaux avec une seule livraison, pas de gestion de stock, pas de risque, je dirais. Royal, voilà, exactement.
Tu donnes des chiffres qui feraient plaisir à un éditeur normal. Hein,
oui, tout à fait. Et donc, on s'est dit, il y a un marché là-dessus. Donc, on a commencé à développer d'autres produits, toujours sur la santé, parce qu'on était sur cette thématique santé. Donc, Abeille est devenu un éditeur d'éducation à la santé. On a fait des jeux sur les gestes qui sauvent, donc, au départ. Ensuite, on a fait sur la sécurité routière, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la nutrition. Notre reconnaissance, elle s'est faite par la validation des contenus qu'on mettait systématiquement dans les jeux. Notre premier jeu sur les gestes qui sauvent a été validé par le ministère de l'Intérieur, par la Croix-Rouge également à l'époque. Et ensuite, tous les jeux qu'on faisait, on les faisait valider par des institutions importantes. Celui sur sur la biodiversité avait été validé par l'UNESCO, par exemple. Voilà. À chaque fois qu'on créait un jeu, on allait, avant de l'imprimer et de l'éditer, on allait chercher des annonceurs qui pouvaient être intéressés pour personnaliser le jeu, mettre leur logo dessus et le distribuer à l'occasion d'événements. Et donc, on a commencé à démarcher les grosses boîtes du CAC 40 et on a bossé jusqu'à un quart des boîtes du CAC 40. Donc, c'était une belle réussite. Et ce qui a permis à Abeille d'être ce qu'elle est aujourd'hui, je dirais. Hein. C'est vraiment ce qui nous a permis de nous développer. Ensuite, on avait nos activités respectives à côté avec mes associés. Et en 2005, il y avait un plan de licenciement qui se faisait dans ma boîte.
Tout ça, c'était alors que tu étais déjà... Tu étais encore en poste?
J'étais encore en poste, oui, tout à fait. D'accord. Ça, on le faisait quand on était jeune, célibataire, pas d'enfant, pas de contraintes, un salaire qui tombe. Bon, voilà, je dirais que c'était les week-ends, c'était les soirées, c'était gérable. 2005, plan de licenciement, donc je me dis opportunité, j'avais la possibilité, j'étais dans la finance, soit de partir à Amsterdam, soit de partir à Londres, soit de continuer à développer Abeille. Donc j'ai demandé à la boîte si, plutôt que de payer un cabinet de reclassement, s'ils ne voulaient pas me donner le chèque pour me permettre de développer Abeille, ils ont accepté. Donc ça nous a permis de se lancer, je dirais, dans la boîte à temps plein pour essayer de voir ce qu'on arrivait à en faire. Donc on a continué à développer ça pendant quelques années. Jusqu'en 2010, on a la crise des subprimes qui arrive. Crise des subprimes, nos clients, c'était les banques, les assureurs. Donc vous imaginez bien qu'à ce moment-là, ils ont coupé tout leur budget. Donc on s'est retrouvé à diviser par deux le chiffre d'affaires en l'espace de même pas un an. À cette époque, on était à peu près 4-5 salariés dans la boîte, donc on a dû licencier presque tout le monde. Donc la première grosse difficulté de l'entreprise, je dirais. Et là où on a réussi, alors c'est paradoxal, mais c'est qu'on a réussi à licencier alors que c'était des amis, c'était de la famille, c'était compliqué. Mais on l'a fait, mais ça a permis de sauver la boîte. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'après, la boîte a pu repartir, on a pu réembaucher. Aujourd'hui, on est une boîte de 7 personnes. Donc voilà, donc c'était un moment difficile de l'entreprise, mais qui derrière est reparti. À ce moment-là, on a décidé d'ouvrir un bureau aux Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas ? Parce que le nord... Je dirais de l'Europe était encore plus ouverte sur tout et en avance sur tout ce qui était prévention santé. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là-bas. Donc on avait recruté un VIE à ce moment-là. Il y avait des aides publiques également qui n'étaient pas négligeables pour pouvoir développer de l'export. Donc on s'est fait accompagner par Business France et par BPI, c'est le nom des entités maintenant, à l'époque c'était la COFAS, pour développer l'export, ce qui nous a permis de nous relancer aussi à ce moment-là, parce que c'était juste après la crise des subprimes, donc ils ont fait confiance à ce projet-là. Et je dirais que l'activité est repartie, on a eu la chance de remporter un appel d'offres important qui a permis de relancer l'entreprise aussi, de relancer des recrutements, et là on s'est dit qu'il fallait qu'on diversifie un petit peu notre activité. On a relancé toute une gamme de jeux d'éducation à la santé. On a travaillé avec Yellow sur la distribution des jeux avant qu'ils sortent leur gamme enfants, justement. Donc c'était un premier pied, justement, pour essayer de diffuser nos jeux en dehors des écoles et un peu plus grand public. Ça n'a pas fonctionné particulièrement. Aujourd'hui, c'est vrai que nos clients restent les écoles auprès du grand public. On n'arrive pas à amener des jeux sur la santé, mais on a... C'est notre volonté en tout cas. Et ce qui nous a fait rencontrer de plus en plus d'éditeurs, parce qu'on a participé du coup à des salons internationaux, on cherchait à faire de l'export aussi, on participait à Nuremberg, ce qui fait qu'on a rencontré des éditeurs, on s'est retrouvé à un moment donné au début de BlackRock également, on s'est retrouvé juste à côté de BlackRock. BlackRock commençait à avoir pas mal de distribution d'autres éditeurs, donc on a des éditeurs qui passaient devant notre stand, et vu qu'il y avait des bouchons devant le stand BlackRock, on leur servait le café, et ce qui nous a fait rencontrer Blam, finalement. Donc, c'est des petites anecdotes sympathiques, mais qui font que, il y a des aventures qui se passent. Donc, on a rencontré Blam, qui fait qu'on a commencé à travailler avec eux sur la fabrication. Alors, pourquoi la fabrication ? Parce que chez Abeille, on faisait beaucoup de fabrication, finalement, pour compte de tiers. Parce qu'on faisait, je vous parlais tout à l'heure, on faisait de l'édition, alors certes pas des très gros volumes, on faisait du jeu publicitaire pour les entreprises, des volumes beaucoup plus importants, et avec ça on a eu beaucoup de demandes de conception de jeux sur mesure, mesure de fabrication de jeux pour compte de tiers, des associations, des entreprises qui avaient créé leurs propres jeux, qui souhaitaient le fabriquer. Et le marché n'était pas aussi connu de la fabrication qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'on avait notre place aussi pour les accompagner dans la fabrication de jeux. Et à cette époque, Blam également avait besoin de fabriquer leurs jeux, donc on les a accompagnés dans la fabrication. Et petit à petit, l'entreprise, on a commencé à travailler avec d'autres éditeurs aussi sur la fabrication, etc. etc.
Que quand tu parles de fabrication, vous avez des usines, vous avez des réseaux de fabrication?
Alors, on a des réseaux de fabrication, mais on n'a pas d'usine. On est un studio de fabrication, on est un intermédiaire de fabrication, mais avec des volumes de fabrication qui sont importants. Donc, ce qui faisait qu'on avait des deals, je dirais, avec les usines. On avait des tarifs compétitifs, on avait des plannings également. Ça fait que vu qu'on fabriquait beaucoup de jeux dans l'année, effectivement, un imprimeur allait plutôt favoriser nos prods par rapport à une autre prod s'il y avait une urgence, parce que on leur amenait un volume d'affaires quand même assez conséquent. Donc ce qui fait qu'on pouvait travailler avec des tiers pour apporter des productions.
En 2005, en 2010, en 2015, on produit où ? En France, en Chine, en Europe ?
Alors nous, on a fait essentiellement de l'Europe à ce moment-là. Okay. Quasiment pas de France, non. On a dû faire une ou deux prods en France à cette époque. On a dû faire des petits puzzles pour des clients entreprises, mais c'était des volumes faibles, donc c'est des imprimeurs plus classiques où on peut avoir des prix d'achat qui sont élevés. L'entreprise n'est pas du tout le même, n'a pas le même niveau d'exigence de prix qu'un éditeur, par exemple, parce que derrière c'est pas de la revente, c'est pas tout le business qu'il peut y avoir autour du jeu de société grand public. Donc le business model complètement différent. Okay. Donc on pouvait se permettre de faire en France sur certaines typologies de produits uniquement.
C'était des produits plutôt simples, donc tu disais des cartes, simple. Des pulls
Ouais, okay. Simple. Non, tout ce qui est complexe, c'était Europe, voire Asie, si vraiment très complexe. Mais Asie, on en a fait peu. On en fait de temps en temps quand vraiment on peut pas faire en Europe ou que les budgets sont vraiment délirants en Europe. Si le produit est un peu trop complexe, on part en Asie. Même pour Blam, sur certains projets, on fabriquait en Europe, mais on importait des éléments d'Asie. Par exemple, sur Chakra, tous les gems, sur Connecto, les feutres, sur Celestia, même il y avait les dés. Des choses comme ça, donc on faisait de l'import de certains éléments en Asie et c'est vrai que nous on a peu finalement travaillé avec des usines qui faisaient tout parce que on connaissait tout l'écosystème et on avait visité les usines et on sait quelle usine a réellement la capacité de produire quoi. Et donc on allait chercher celui qui sait fabriquer ce qu'on lui demande et qui ne l'outsourçait pas lui-même par ailleurs pour avoir des cumuls de marge, etc. Donc ce qui nous a permis de nous positionner sur ce marché également.
Et là, c'est la société Abeille qui vient accompagner Blam sur sa production.
C'est Abeille qui est un fournisseur de Blam, et Blam est le client d'Abeille à ce moment-là, tout à okay. fait. Exactement.
Abeille existe toujours aujourd'hui ?
Alors, Abeille existe toujours aujourd'hui. Depuis fin 2024, on a complètement restructuré l'entreprise. Donc, on était rentré dans le capital de Blam il y a quelques années maintenant, quand ils ont eu des petits soucis financiers suite à des échecs commerciaux sur certains jeux. Et donc, on les a accompagnés dans la restructuration. Donc on était rentré dans le capital de Blam à ce moment-là. Et on s'est rendu compte avec la période Covid que la lisibilité d'Abeille était un petit peu complexe par la multitude des activités que nous avions dans l'entreprise. Effectivement, on avait de l'édition, on a de la communication, mais finalement, la communication nous représente 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise, sauf que la vitrine, c'est l'édition. Et donc, on a été approché par des boîtes qui souhaitaient nous racheter, mais parce qu'elles voyaient notre chiffre d'affaires sur l'édition, alors que finalement, ce chiffre d'affaires, c'était sur la communication, donc ça les intéressait beaucoup moins. Donc, on s'est dit que c'était le moment de restructurer l'entreprise. Là où on avait Abeille, qui était Abeille Édition, l'éditeur, et on avait créé une marque quand on était parti à l'étranger, Games on Demand, parce que Abeille à l'étranger, c'était imprononçable. Donc on a créé Games on Demand pour la partie communication. Mais Games on Demand n'est qu'une marque, c'est pas une société en elle-même. Et donc il y a 3 ans, on a rencontré également Quentin Vinoc de Ludotopia, qui avait créé sa structure de fabrication de jeux de société en France. Et moi, à ce moment-là, déjà avant le Covid, j'avais pour volonté de fabriquer des jeux en France parce que c'est quand même le marché numéro 1 en Europe, et on n'est pas capable de fabriquer nos jeux en France, donc c'était un petit peu regrettable. Donc je me suis dit, bah, tu fais quand même beaucoup de cartes de jeux, achète une machine de cartes pour faire tes propres jeux. Mais on parlera peut-être de ce sujet-là un peu plus tard. Donc ce qui fait que j'ai rencontré Quentin, et vu qu'on avait la même activité de proposer de la fabrication de jeux de société en France aux éditeurs, on s'est dit que plutôt que de s'affronter, qu'il était plutôt pertinent de s'associer. Et donc on a, là depuis fin octobre, effectivement, on a transformé Abeille. Abeille est devenue une holding. Alors là, ça devient très
financier.
C'est une holding organisationnelle, donc dans laquelle il y a les associés. Donc il y a Simon Viau de Blam, il y a Claude également, il y a Quentin Vinoc qui est également rentré dedans, du coup moi-même, et Sylvain Chapelle qui est le directeur commercial d'Abeille, qu'on a intégré dans le capital du coup suite à cette opération là. Et Abeille, qui est cette holding, détient 100% de Blam maintenant et 100% de Ludotopia. Et là, on est en train de procéder à des apports partiels d'actifs, c'est-à-dire qu'on apporte l'activité édition à Blam, ce qui fait qu'on a une structure qui aujourd'hui s'appelle encore Blam, qui ne fera que de l'édition de jeux de société, et une activité Ludotopia aujourd'hui qui va recevoir toute l'activité Games on Demand, qui est une activité de service autour du jeu de société. Et donc on a la holding et deux entités séparées.
On avait eu l'occasion d'interviewer Quentin Vinoc l'année dernière.
Ah, ben voilà.
Vous pouvez retrouver l'interview
d'accord.
Pour plus d'informations. Donc, tu as commencé à en parler. Tu t'es rapproché de la fabrication. Tu t'es posé la question d'acheter une machine de cartes. Tout ça nous amène sur un sujet d'actualité, puisque fin d'année dernière, enfin, on va dire de la deuxième moitié de l'année dernière, vous avez annoncé, avec en partie Blue Orange, la création d'une usine en France du côté de Nancy. Si j'ai bien toutes les informations.
Tout à fait.
Peux-tu nous en parler un peu? Où en est ce projet?
Alors, oui, je peux en parler un peu, effectivement. Donc, c'est un projet qui est né il y a un peu plus d'un an maintenant. Mais c'est Timothée qui m'a contacté parce qu'il savait que je faisais du Made in France, ou en tout cas qu'on essayait de structurer quelque chose en Made in France. Et il m'a demandé si la participation à un projet de création d'usine à Nancy, d'une usine de fabrication de jeux de société, pouvait m'intéresser. Donc évidemment, je lui ai dit bah, oui, avec plaisir, parce que ça fait tellement longtemps qu'on essaye de le faire et qu'on n'y arrive pas pour X et Y raisons. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est peut-être un peu tard, ou peut-être pas. Donc on a commencé à travailler sur le projet, on a commencé à regarder comment on pouvait structurer le projet. Donc là, Game in France, c'est le nom de l'usine, a été créée en août 2024. Donc là, la structure juridique existe, et on est en pleine levée de fonds pour nous permettre justement d'acheter les machines, pour pouvoir nous permettre de lancer cette usine officiellement, normalement fin d'année de cette année.
Vous avez déjà des locaux?
Alors on a les locaux, effectivement, dans les associés. Il y a également le groupe EBRA, qui correspond à l'Est Républicain, entre autres, Vosges Matin et d'autres presses régionales, qui ont tout un local d'un peu moins de 2000 m² qui est disponible, et les locaux, du moins l'usine, sera installée justement dans leur usine, qui est parfaitement adaptée pour recevoir ce genre de machine.
Type de machine, parce que le jeu de société, il peut y avoir plein de choses dedans. Vous ciblez sur les cartes pour commencer, puis vous développez. Quelle est la stratégie?
Alors, la stratégie, elle va être assez ciblée. C'est-à-dire qu'effectivement, l'usine, elle sera en capacité de fabriquer des boîtes, fabriquer des cartes, fabriquer des punchs et des règles du jeu pour accompagner l'ensemble. Mais on sera sur des formats spécifiques. On pourra communiquer dessus dans quelques mois, quand on aura réellement le financement et qu'on sera sûr des achats machines. Mais effectivement, on ne sera pas en capacité, et c'est une volonté, de fabriquer l'intégralité des jeux du marché, qu'ils soient français ou européens. C'est pas du tout l'objet. C'est déjà de permettre à la France de se doter d'une usine digne de ce nom, qui soit en capacité de fabriquer une bonne partie des jeux du marché, c'est-à-dire qu'on a identifié, je dirais, les jeux qui nous permettraient de nous placer financièrement, parce qu'il ne s'agit pas de proposer aux éditeurs une usine qui va faire des prix 40% plus cher que les autres fabricants européens. On ne se compare pas à la Chine, parce qu'on ne peut pas se comparer à la Chine de toute façon. Donc on se compare vraiment aux usines européennes qui existent aux Pays-Bas, en Espagne, en Pologne, en Allemagne, etc. Il n'y a pas de raison que dans ces pays, ils y arrivent et qu'en France, on n'y arrive pas. Donc on se base sur un marché qui est à peu près, qu'on estime à peu près 40% du marché français, sur une typologie de jeu, et on proposera une usine qui sera en capacité de fabriquer cette typologie de jeu de société.
L'idée, c'est de répondre aux besoins de tous les éditeurs, pas seulement à Blue Orange ou à
Abeille. Ah oui, tout à fait.
C'est vraiment d'ouvrir l'usine à toute la production française.
Ouais. Oui, alors je dirais que c'est Abeille et Blue Orange paieront plutôt les pots cassés au départ. C'est-à-dire que l'objectif, on sait ce que c'est de fabriquer des jeux, on sait comment ça peut être compliqué de fabriquer des jeux, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai voulu acheter une machine pour les cartes. On s'est mis en partenariat avec d'autres usines, alors une usine qui fait des boîtes, une usine qui fait des cartes, une usine qui fait des règles, il n'y avait pas d'usine en un seul lieu. On s'est rendu compte de la difficulté de fabriquer un jeu de société, alors même si on avait pu voir nos autres partenaires, leur manière de fabriquer les jeux européens. Mais il y a quand même... On n'est pas très loin du secteur du luxe, finalement, dans le jeu de société. On dirait pas comme ça, mais il y a tellement de métiers différents et tellement de précision à avoir. Un jeu de cartes, on dirait que c'est simple, mais ne serait-ce que l'impression d'un dos de carte, si vous avez un petit point blanc en plein milieu d'une carte sur les 50 cartes, c'est fichu. Vous savez quelle carte, vous savez l'identifier. On s'est rendu compte qu'il fallait avoir un vrai savoir-faire dans la fabrication de jeux. Donc, on a effectivement des achats machines importants à faire pour cette usine, et l'objectif, c'est d'avoir tout en un même lieu, parce que là aussi, fabriquer des boîtes en Bretagne, des cartes dans le centre de la France, des règles dans le sud de la France, quel intérêt? On va faire beaucoup de déplacements, ce qui fait que ça rend même le produit en termes de prix de revient qui n'est pas intéressant par rapport à ce qui se pratique par ailleurs. Donc là, c'est d'avoir tout en un même lieu. Il n'y a que la partie impression qui sera sous-traitée dans un premier temps, parce que pour avoir une imprimerie, il faut des volumes extrêmement importants pour que ce soit pertinent. Donc l'imprimerie sera sous-traitée, mais avec des partenaires qui ont l'habitude déjà d'imprimer pour du jeu de société. C'était des anciens partenaires de France Cartes, de l'usine France Cartes qui a fermé. Et donc, ils savent ce que c'est le jeu de société.
Donc, vous avez plus de la découpe et de l'assemblage.
C'est ça. C'est une fois que vous avez fait l'impression, on va faire tout le reste. Okay. Donc, c'est effectivement de la découpe, du contre-collage, de l'assemblage. On va travailler avec un ESAT qui sera intégré à l'usine pour faire les assemblages quand ils ne seront pas automatisable.
Donc tu parlais plutôt de sourcing pour des éléments, quand tu parlais d'abeilles, je ne sais pas, par exemple aller chercher des cubes en bois à rajouter, ce sera quelque chose de possible aussi dans cette usine?
Ce sera quelque chose de possible dans cette usine, mais ce n'est pas l'objectif dans un premier temps. Un premier temps, on sera vraiment sur une typologie de jeu simple, boîte, carte, cale, règles du jeu. Après, s'il y a quelques petits accessoires, bien sûr, on sait les sourcer. Comme l'éditeur sait généralement les sourcer également, donc il pourra nous les livrer ou on pourra aller les acheter. On sait le faire, on sait le faire avec Abeille depuis longtemps, donc on saura le faire. Mais il s'agit vraiment de rester sur des produits qui resteront dans le spectre de l'usine.
Et cette usine, on parlait tout à l'heure, sera ouverte à d'autres éditeurs, à d'autres marchés que la France, ou pour l'instant vous voulez vous restreindre à la France?
Alors pour l'instant déjà on veut cibler la France parce que c'est le marché numéro 1 en Europe, donc je pense que déjà si on arrive à devenir l'usine de jeux de société français, ce sera déjà bien. Après bien sûr dans un second temps, à horizon 4-5 ans, ce sera d'aller chercher du marché européen, mais c'est pas l'objectif des 3 premières années, c'est vraiment le marché français. Et donc sur l'ouverture aux éditeurs, effectivement on va s'appuyer d'abord sur les commandes de Blue Orange et sur les commandes d'Abeille pour bien mettre en route l'usine, pour s'assurer que tout est bien rodé, que tout fonctionne bien. Ça reste une industrie avec plein de risques, donc on veut s'assurer que tout roule avant de proposer aux éditeurs de fabriquer leurs jeux. Donc ça nous amène en général... On estime à peu près à partir de septembre-octobre, on pourra dire ça y est, on peut prendre des commandes externes pour assurer de la qualité. L'objectif premier de l'usine, c'est un produit de qualité à un prix qui soit compétitif sur le marché européen. Mais on n'ira pas chercher du prix si on n'a pas la qualité. La qualité est le premier élément indispensable. Et ensuite, on est ouvert à tout éditeur qui souhaitera imprimer. Abeille ne sera pas prioritaire, Blue Orange ne sera pas prioritaire sur les machines. Aujourd'hui, on est en pleine levée de fonds, on a ouvert le capital à d'autres investisseurs. Et dans les investisseurs potentiels aujourd'hui qui ont déjà émis des lettres d'intention, on a des éditeurs, soit des individus, soit des entreprises. Mais le capital est ouvert aujourd'hui à d'autres éditeurs également et on a un retour plutôt très favorable. Sur ta structure, et ce qui est très encourageant et très motivant aussi, parce qu'on montre qu'il y a une vraie demande, ouais, et un vrai besoin d'avoir une usine.
Tu sens le besoin, l'envie d'éditeurs de relocaliser plus facilement leur production.
Ouais, bah après, là aussi, nous, l'objectif, c'est d'avoir des délais qui soient relativement courts. On voit bien aujourd'hui, quand on fabrique en Asie, on a des délais. On le voit, là, Blue Orange, les premiers, il y a un print, le jeu, il fonctionne bien, plus que ce qu'on aurait espéré. On se retrouve en rupture de stock, on lance la prod en Asie, on doit attendre 3-4 mois, peut-être que l'hype, elle sera repartie. Du coup, on se retrouve avec un stock de jeux, on ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est pour ça que la réactivité va être importante. Et l'usine, elle ne va pas prétendre venir chercher tous les best-sellers de tous les gros éditeurs. On sait bien qu'on ne pourra pas forcément se placer sur tout ça. Mais on pourra, pour les gros éditeurs, venir devenir une usine tampon. Là, il y a un best-seller qui s'annonce. Vite, il faut relancer une prod qu'on puisse livrer en 4-5 semaines. L'usine, elle sera capable de le faire. Elle est censée être capable de le faire. Donc c'est sur ces marchés-là, et ensuite aussi accompagner les éditeurs sur des plus petits projets jusqu'à des projets plus importants. On estime pouvoir lancer les prods à partir de 1000. On pourra peut-être descendre à 500 ex, mais en deçà ce sera difficile, ou en tout cas l'usine ne sera pas calibrée pour ça. Donc l'objectif, c'est déjà d'être placé à partir de 1000 exemplaires.
Est-ce que tu as pu visiter d'autres usines d'éditeurs qui ont fait ça? Je pense notamment à CGE, qui a internalisé aussi sa production il y a quelques années maintenant.
Non, alors j'ai pas visité d'usines d'autres éditeurs. J'ai visité des usines de fabrication de jeux. J'ai pu visiter Fabrica, j'ai pu visiter Treffle, NSF. Donc j'en ai visité quelques-unes déjà en Espagne aussi, mais pas d'éditeurs à proprement parler. Il en existe. Après CGE, je connais pas suffisamment, mais il me semble qu'ils ont racheté une usine. Oui. C'était une usine qui était indépendante, qui a été rachetée par CGE. Après eux, ils en avaient besoin pour leur prod, je sais pas, d'ailleurs je pense qu'ils produisent encore pour d'autres éditeurs également, il me semble, du moins je crois que mais il faudrait, nous on voit là pour une autre usine, on a une capacité de production avec les premières machines qui est de l'ordre de 3 millions de boîtes. 3 millions de boîtes, c'est beaucoup sans être beaucoup finalement, donc pour un éditeur, si on prend Asmodée par exemple, clairement l'usine ne suffit pas pour ses productions, mais de toute façon avoir une usine qui répond à tous les jeux du marché, c'est des usines énormes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on cible vraiment de manière très précise le marché pour être bon à un certain endroit, mais pas sur tout, parce que être sur tous les fronts, c'est compliqué.
Et justement, tu as visiter donc d'autres usines, tu nous as dit. Comment ils sentent l'arrivée de ces usines-là? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont un peu réticents, que la concurrence se crée, ou est-ce qu'ils sont contents que ça se développe aussi sur le marché européen?
Sincèrement, je ne sais pas.
Tu sais pas?
J'ai pas eu l'occasion d'en discuter encore avec eux. Ouais. Jusqu'à présent, on n'en a pas parlé particulièrement de cette usine. Effectivement, il y a eu de la presse, mais très française. Nous, on n'en a pas parlé particulièrement aux fabricants. Alors moi, depuis le temps que j'essaye de fabriquer une usine en France, j'avais contacté mes partenaires en leur disant, mais aidez-moi à fabriquer en France, vous participez à la création de l'usine, vous savez ce que c'est de créer une usine, créons-la en France ensemble. Ils n'ont jamais voulu, parce qu'il fallait faire des business plans très, très complexes. Alors pas que je ne sais pas les faire, mais c'est du temps, c'est du boulot, et à un moment donné, il faut être persuadé. Nous, on avait une autre conviction, et là avec Timothée, effectivement, on est persuadé que ça marche, et derrière on a pu rencontrer des personnes qui ont pris le temps de monter ces business plans, effectivement, pour les investisseurs. Mais il y a le marché du jeu, finalement, se développe, mais est peu connu du grand public, ce qu'on appellerait investisseur. C'est-à-dire que c'est un secteur presque de niche où on dit, mais c'est quoi ce secteur? Ah oui, ça fait ça quand même comme chiffre. Donc, mais il est quand même très, très, très confidentiel pour nous tous ici. Effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 20 ans et on baigne dedans depuis des années. Pour des investisseurs qui ne sont pas joueurs pour un sou, quand on leur parle de jeux de société, oui, effectivement, ils parlent de Monopoly, ils parlent de Trivial Pursuit et maintenant de Skyjo, de plus en plus. Mais c'est tout.
Peut-être un secteur aussi rattaché trop rapidement aux jouets ou à l'enfance aussi.
Oui, alors à l'enfance certainement, mais on voit que c'est un secteur qui s'ouvre quand même de plus en plus, donc qui commence à intéresser les gens. Mais après, il y a les revers. Hein. Des fois, c'est bien de vivre caché aussi.
Question sur l'usine. Est-ce que vous avez réfléchi à une dimension écologique? Est-ce que vous pensez à du carton recyclé? Ou est-ce qu'au contraire, c'est complètement incompatible avec la qualité que vous recherchez?
Non, alors il n'y aura pas de plastique dans l'usine. Ouais. On fait tout en papier et carton. Alors bien sûr, si quelqu'un veut du thermoformage, on a des partenaires en thermoformage avec du plastique recyclé qui existe en France, avec qui on sait travailler, on saura travailler. Mais l'objectif, c'est d'être sur du carton. Carton FSC, il y a l'objectif d'avoir l'usine qui soit certifiée FSC. Le plus rapidement possible et après encre végétale, etc. Mais aujourd'hui, ça, c'est très classique dans le jeu, donc c'est pas une innovation en soi d'être un petit peu vert. Sur les énergies, on est à Nancy, on est sur de l'électrique, on est donc sur de l'électricité nucléaire plutôt. Il y aura pas de panneaux photovoltaïques dans un premier temps, mais on a les contrats des fournisseurs en électricité qui garantissent de l'électricité verte, mais bon, là aussi, quelle est la mesurabilité, on n'en sait rien. Mais voilà, on est la production de jeux. Alors, l'UEJ avait fait un livre blanc justement sur l'impact environnemental, et c'est pas tant sur les matières. Alors, bien sûr, le mieux c'est de pas produire de jeux, hein, on est d'accord, mais in fine, sur les cartons, à partir du moment où on est FSC, sur les encres, si on est propre là-dessus, ça va être le transport. Il faut limiter au maximum le transport. Et en étant en France, en ayant tout intégré, on limite quand même beaucoup le transport. Finalement, à Nancy, on est plutôt bien situé géographiquement par rapport aux gros distributeurs Asmodée, BlackRock, Gigami, qui ne sont pas si loin de l'usine. Donc, on va pouvoir quand même livrer assez facilement avec du transport réduit. Donc,
les imprimeurs avec qui vous allez travailler sont
tous
assez
locaux,
proches.
Ils sont à moins de 50 km de l'usine. Donc là, c'est tout est vraiment... proche, et c'est oui non, l'idée n'est pas d'aller chercher des imprimeurs à l'autre bout de la France non plus, c'est vraiment d'être en local et de limiter vraiment l'impact carbone au niveau du transport.
Est-ce que tu as quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu souhaiterais ajouter?
Oh, plein, mais après je pense qu'on va y passer 3 jours.
C'est ce que tout le monde nous dit. On a notamment pas cité le fait que tu étais président de l'UEJ.
Oui, tout à fait, également. Je suis président de l'Union des éditeurs de jeux de société depuis, je ne compte plus, ça doit faire 3 ans maintenant à peu près. Un joli challenge pour cette union qui se développe quand même beaucoup. On est près de 90 éditeurs maintenant dans l'UEJ. Alors combien il y a d'éditeurs en France aujourd'hui, on ne sait pas, ils s'en créent quand même beaucoup. Aujourd'hui, on parle de 150, mais je pense qu'on est au-delà maintenant. Et avec plein d'actions qui sont menées pour participer au développement du secteur, pour participer à la reconnaissance du jeu de société comme objet culturel. Il y a eu l'expo du GIGS, du groupement interprofessionnel du jeu de société, qui regroupe les différentes associations du secteur du jeu de société qui se sont réunies également. Donc, comme je te dis, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui pourraient être traités.
Ça sera le sujet d'une autre interview, je pense.
C'est possible, je pense également que ça sera préférable. Et aussi d'une autre interview, on a le cartable ludique, c'est le premier projet, je dirais, du nouveau groupe Abeille, qui fait travailler l'ensemble des équipes, aussi bien de l'édition que de la communication, sur un projet fédérateur. Mais là, je laisserai Simon Villot vous en parler davantage à l'occasion d'une interview, si vous le souhaitez.
Ça marche, on essaiera de le croiser.
Merci beaucoup d'être passé à notre micro, ça nous a fait très plaisir de t'accueillir et d'entendre parler de tous ces projets.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don et vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout
jouez bien.